Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. On retrouve Sylvie Rochard. Bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être ici.
Aujourd'hui, on va parler donc de l'enfant intérieur, apprendre à mieux communiquer également.
Oui, apprendre à communiquer avec notre petit enfant intérieur. Ce petit enfant, c'est l'enfant blessé que nous avons été dans l'enfance. Et ce que nous avons vécu est inscrit en nous et agit de façon tout à fait inconsciente dans notre communication adulte. Et ça, on n'en a pas forcément conscience, en fait, hein. Il y a tout un jeu inconscient qui se passe dans nos échanges. Et malheureusement, souvent, ça pollue notre communication. Parce qu'on a des réactions émotionnelles, quand on a on vit des choses intérieures un petit peu compliquées, alors qu'apparemment c'est une situation qui semble anecdotique de l'extérieur, ben, c'est très certainement qu'il y a quelque chose de plus ancien qui est réactivé, une blessure de l'enfance.
Et justement, pourquoi s'intéresser à ces blessures?
Le passé est ce qu'il est, hein. On peut plus rien faire, hein. On a vécu ce qu'on a à vivre, et c'est le présent qui nous intéresse. Mais justement, parfois dans notre présent, lors de notre communication, ben, on voit que ça se passe mal avec les autres. Et on dit souvent, c'est tellement plus simple de se le dire d'ailleurs, que ben, c'est la faute des autres, en fait, ils savent pas communiquer. Or, en fait, nous sommes co-créateurs de nos échanges. Et du coup, de s'intéresser à ce qui s'est passé dans notre passé qui interfère dans notre communication, bien, ça va permettre de fluidifier notre communication. Et puis surtout aussi, ça va permettre de calmer les émotions qu'on peut vivre, parce que ces émotions, elles sont vraiment polluantes pour le corps. On peut même développer des maladies à force d'avoir des émotions non exprimées. D'où l'intérêt, effectivement, d'aller, c'est pas gratter dans le passé pour dire de remuer la boue, de remuer tout ce qu'on a vécu, qui n'est pas forcément agréable. C'est pas du tout ça. C'est plus de libérer l'énergie qui est restée bloquée à cette époque pour pouvoir avancer dans notre présent d'adulte, en fait. Parce que ce présent, bah parfois on a tout pour être heureux, et puis on sent qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et c'est souvent une blessure. Alors, je parle beaucoup des blessures. Qu'est-ce que c'est que les blessures? C'est pas forcément quelque chose de dramatique. Alors, bien évidemment, quand il y a des choses dramatiques vécues, comme le décès d'un parent, ou une maladie grave, ou des choses comme ça, ou une agression, bien évidemment que ça marque le psychisme de l'enfant, et donc après de l'adulte qui s'est construit avec ces blessures-là. Mais quelque chose qui paraît beaucoup plus anecdotique, qui semble anecdotique du moins aux yeux d'un adulte, mais peut être très traumatisant pour l'enfant. Alors ça peut être ben, tout simplement la perte d'un doudou, si la maman par exemple rachète un doudou sans donner plus d'explications à l'enfant. Ça peut être aussi ben, la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur qui a mal été préparée par les parents aussi. Ben, ça peut être aussi des brimades répétées par les parents ou alors les camarades de classe aussi, des dénigrements systématiques, des reproches systématiques dès que l'enfant fait quelque chose. Ben, ça marque le psychisme de l'enfant et c'est comme si une partie de son processus psychique reste bloquée à l'époque où s'est passé l'événement. Et du coup, ça handicape en fait, ça a bloqué la croissance psychique et il y a une partie de l'individu qui reste bloqué à cette époque en fait. Alors les blessures, ça peut être, moi c'est vrai que je parle de deux blessures, hein, blessure de manque d'amour, blessure de rejet. Selon les écoles, on peut en avoir plusieurs autres. Alors au niveau des blessures, ce qui est important de savoir, c'est soit c'est un événement un seul qui est vécu ben, seul par l'enfant, justement, il n'y a pas eu de conscientisation ni de verbalisation. Il sent qu'il se passe quelque chose, il a des émotions, mais voilà, il n'arrive pas à mettre des mots dessus, ou alors c'est une récurrence de phénomène aussi. Alors, les blessures peuvent être nées aussi du fait que ben, l'énergie des parents est concentrée, par exemple, si dans la fratrie, il y a un enfant qui est malade ou handicapé, ou alors si la fratrie est très nombreuse et du coup, l'énergie des parents est un petit peu diluée pour s'occuper de tout le monde et l'un des enfants, ou plusieurs enfants de la fratrie, ben, se sent un petit peu rejeté, exclu ou moins aimé. Là aussi, voilà, ça crée des blessures. Et du coup, eh bien, ces blessures, c'est qu'elles ont des conséquences dans le développement de l'enfant et de l'adulte après que l'adulte est, en fait.
Donc ça se reproduira.
Alors, c'est pas, comment dire, c'est qu'en fait, quand l'adulte est confronté à certaines situations, il revit les émotions similaires à celles qu'il a ressenties dans l'enfance parce que ça touche une blessure. C'est comme, on appelle ça en analyse transactionnelle, puisque c'est un outil avec lequel je travaille. L'analyse transactionnelle est un outil de psychothérapie. Ça s'appelle un élastique en analyse transactionnelle. C'est-à-dire, c'est comme si l'émotion du passé est revéhiculée jusque dans le présent de l'adulte, qui, à travers une situation qui semble pas avoir de rapport avec ce que l'enfant a vécu, hein, mais ça lui refait revivre la même chose. Alors, ça peut être un sentiment d'injustice, par exemple, un sentiment de rejet. L'adulte se sent rejeté par la personne qu'il a en face de lui. Il se sent blessé, il a d'énormes émotions parce que ça lui revéhicule ce qu'il a vécu dans l'enfance. D'où l'intérêt d'aller un petit peu, ben, voir ce qui s'est passé pour libérer encore cette énergie. Parce que l'enfant, il souffre tellement qu'il en vient à croire que c'est de sa faute. S'il n'est pas aimé ou s'il est rejeté. Alors que, ben en fait, c'est pas de sa faute, mais lui, il le prend pour lui. Et du coup, il va y avoir tout un tas de mécanismes qui vont se mettre en place dans sa tête. Il va développer ce qu'on appelle des croyances sur lui, sur le monde en général, sur les autres, qui vont lui permettre, ben, de pas toucher à sa blessure. Alors, il va peut-être croire que, ben, il est nul, qu'il ne mérite pas l'amour, que personne jamais ne l'aimera. Ça, c'est les croyances qu'il a sur les autres, par exemple. Voilà, ça, c'est les croyances qu'il développe. Et en plus, ces croyances
Abîme.
qui abîment complètement, alors ça tue
Ouais.
complètement l'estime que l'enfant a de lui. Parce qu'il se sent vraiment ben, sans valeur. Donc ça joue sur l'estime de lui, sur la confiance en lui, bien sûr. Alors en plus de ça, de ses croyances, il y a des parties psychiques à l'intérieur de lui qui vont agir en plus comme des juges autonomes et inflexibles. C'est ce que j'appelle le juge intérieur. Ce juge intérieur, ben, il casse, il juge. Et puis dans le négatif, bien évidemment, hein, il sabre tout ce que fait l'enfant, tout ce que pense l'enfant. Il est dans la critique systématique, il compare aux autres, et t'es moche, et elle est plus belle que toi, elle y arrive mieux, et tu peux mieux faire, et c'est jamais assez bien. Et le souci de ce juge intérieur, c'est qu'il perdure tout au fil de notre vie d'adulte, parce que très souvent, nous avons ce juge intérieur à l'intérieur de nous, qui nous casse, qui nous juge dans la négative. On a aussi toujours nos croyances qui nous handicapent, on appelle ça des croyances limitantes, parce qu'on est tellement persuadé, par exemple, qu'on ne vaut rien ou qu'on n'y arrivera jamais. Ben, c'est une croyance, ça. Seulement, le problème, c'est que le cerveau, les neurosciences ont déterminé que le cerveau, eh bien, il sécrète des substances qui corroborent nos croyances. Si on croit qu'on est nul, on va effectivement imprimer dans le cerveau qu'on est nul et on va attirer à nous des situations qui vont nous confirmer qu'on est nul. D'où l'intérêt d'aller travailler sur ce qu'on croyait de nous enfants, ce que nous disaient nos parents aussi, de travailler aussi sur ce juge intérieur, parce que ce juge intérieur, il était dans l'enfance, mais il est maintenant dans notre présent d'adulte. Et du coup, moi, ce que je propose à mes clients, c'est d'aller voir justement dans notre présent, parce que c'est à partir du présent qu'il faut travailler. Parce que le passé, on n'a pas forcément de souvenirs de notre enfance. C'est dans notre présent, qu'est-ce qu'on se fait à soi-même? Est-ce qu'on se critique sans arrêt? Est-ce qu'on est dans le jugement? Et du coup, de prendre conscience de ce qu'on se fait dans notre présent, ça va nous raccrocher à ce qu'on a entendu peut-être dans notre enfance, que nos parents nous disaient, que les camarades de classe nous disaient, etc. Et du coup, ça va libérer l'énergie qui est restée bloquée à cette époque et puis qui nous a ancrés dans la croyance de « je suis nul, j'y arriverai jamais », par exemple. Alors, le problème de ce juge intérieur et de ses croyances, ben, ça fait vraiment un chaos à l'intérieur de l'enfant qui vit une insécurité affective énorme. Et du coup, ben, il va tenter de plus écouter ce juge, mais il est tellement présent, et puis même dans notre présent d'adulte, il est tellement présent que ça devient un automatisme. Il croit ce que le dit le juge intérieur, surtout. Ben, il va développer des stratégies d'adaptation par rapport à l'environnement pour essayer justement de correspondre à ce qu'il croit que les autres attendent de lui. C'est ce qu'on appelle les masques. Alors, j'ai pris deux styles de masques, mais bon, c'est pareil, on peut en trouver plusieurs. C'est des terminologies de l'analyse transactionnelle, hein. Il y a le masque d'enfant adapté soumis, Et comme son nom l'indique, eh bien, c'est la soumission, c'est-à-dire qu'il est dans le fait plaisir à l'autre. Il répond aux besoins de l'autre pour pas répondre à lui-même à ses propres besoins. Il sait même pas qu'il a des besoins en fait. Hein. Alors il est vraiment dans le fait plaisir ou dans le soi parfait. On appelle ça des drivers en analyse transactionnelle. Le soi parfait, c'est-à-dire qu'il essaye d'atteindre un niveau de perfection qui est inatteignable dans la réalité. Et en plus, le juge intérieur lui dit que c'est jamais assez bien. Il peut être aussi dans la victime, la victimisation. Il joue un petit peu à Calimero, vous savez, ce petit personnage de dessin animé, un petit poussin noir au milieu d'une fratrie de poussins jaunes, qui dit toujours c'est trop injuste, personne ne m'aime. Il pleure sans arrêt, il se plaint. Et bien, l'enfant peut mettre ce masque de victime, d'être dans la victimisation. Et à côté du masque d'enfant adapté soumis, bien, il peut mettre un masque opposé, c'est le masque d'enfant adapté rebelle. Et comme son nom l'indique, eh ben il est dans l'opposition systématique, il dit non à tout. Il met un masque de je suis fort, même pas mal, moi tout seul. Mais dans les deux cas, que ce soit le masque d'enfant adapté soumis ou rebelle, ben il se coupe l'enfant complètement de toute sa richesse intérieure. Et le problème, c'est que dans notre présent d'adulte, eh bien on continue très souvent à mettre ces masques. Ou d'enfants adaptés soumis, ou d'enfants adaptés rebelles, c'est-à-dire qu'on est à faire plaisir toujours aux autres, à donner beaucoup d'importance au regard de l'autre. Qu'est-ce qu'il va dire si je fais ci, si je fais ça? Eh bien, ça vient des blessures de notre petit enfant intérieur, et ça vient de ce masque que l'on a mis enfant, qu'on continue de façon tout à fait inconsciente à retranscrire dans notre présent d'adulte. D'où encore l'importance d'aller travailler sur ces blessures. Parce que tout ce qu'on fait dans notre vie d'adulte, on croit être adulte. Eh bien non, c'est très souvent notre partie enfant blessé qui agit. Quand on est dans à dire oui à tout, on nous demande quelque chose, un service, tu peux me faire rendre. Oui, sans vérifier si c'est en accord avec nos besoins. On est à ce moment-là dans le fait plaisir pour répondre aux besoins de l'autre. Et du coup, on ne s'écoute pas du tout, on ne sait plus du tout ce que l'on veut, et on s'épuise justement à donner une satisfaction à l'autre. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on espère ben, de la reconnaissance, de l'amour, parce que c'est ça le principe de ces masques. Pourquoi mettre des masques? Même l'enfant, pourquoi il met ces masques? Ben, déjà, il ne touche pas à ses blessures, et puis surtout, c'est qu'il espère de l'attention, il espère de la reconnaissance. Alors, c'est jamais à la hauteur de ce qu'il veut, parce que quand on attend que l'extérieur réponde à nos besoins, on n'est jamais satisfait, parce qu'il n'y a que nous qui sachions. Ce que nous, eh ben, ce que l'on veut dans la vie. Hein. Et c'est pour ça que bien souvent, on est en attente envers les autres. Et on est toujours déçu, d'où des réactions émotionnelles. Et c'est là les problèmes de communication, justement. Parce que ça vient de tout ceci, parce qu'on voit jamais l'autre pour ce qu'il est, on fait des projections. Sur l'autre, on ne voit pas la personne telle qu'elle est, mais on voit un comportement qui nous rappelle, par exemple, un comportement qu'on a subi adulte. Ça peut être une injustice que notre maman ou notre papa était très injuste avec nous, par exemple. Et la personne en face, en tant qu'adulte que nous voyons, eh bien, elle a le même comportement. Alors, je vais prendre un exemple, par exemple, dans un couple. Si la madame est très maniaque, elle range tout. Elle a un niveau, un soi parfait et énorme. Donc, elle est toujours en train de faire le ménage. Et dès que monsieur sort ses outils, bah, à peine il tourne le dos pour en prendre un autre, elle lui range tout. Et là, monsieur, ça le met dans un état énorme de colère parce que ça lui rappelle très inconsciemment sa maman qui, à peine il sortait un Lego, il tournait le dos pour en sortir un autre, elle lui rangeait tout. Donc là, il voit pas sa femme, mais il voit un comportement de sa mère. Alors, c'est grossier un peu comme exemple, et c'est pour vous faire comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre présent d'adulte de façon très inconsciente. Et tous nos... Toute notre communication est basée souvent là-dessus. Alors, en plus des interprétations, des projections, alors, les projections, on en fait beaucoup aussi dans l'éducation. Alors ça, effectivement, on croit faire pour le bien de nos enfants. Et je suis désolée de vous l'apprendre, mais on le fait pour soi-même, l'éducation. Parce que j'ai tellement souffert de ce que j'ai vécu enfant. Eh bien, je vais pas reproduire avec mon enfant ce que j'ai fait, je vais faire tout le contraire. Sauf que là, on voit pas l'enfant pour qui il est, mais on se voit à travers lui et oh, je veux pas qu'il souffre comme moi. Sauf que l'enfant, on ne le voit pas. Il a d'autres besoins, il a d'autres mamans, un autre papa, une autre époque. Et on cherche à se guérir de notre enfance au travers de notre éducation. Et au contraire, si on a eu une éducation parfaite, entre guillemets, et que ça a très bien marché, ben, je vais refaire la même chose pour mes enfants. pas de peau, ça marche pas. C'est la même chose parce que l'enfant est différent. Donc on fait des projections sans arrêt dans notre vie d'adulte. Parce que le monde, on le lit à travers des lunettes déformantes. On croit voir le monde tel qu'il est et on est sûr que c'est la vérité et que c'est une vérité universelle. Alors qu'en fait, on a tous des lunettes déformantes. Ces lunettes, c'est ce qu'on appelle notre cadre de référence qui est issu de ce qu'on a vécu enfant et qui inclut ce cadre de référence, il comprend nos croyances sur nous, sur le monde, sur les autres. Il comprend notre juge intérieur qui a classifié ça c'est bien, ça c'est mal. Mais pour quelqu'un d'autre, ce que nous on croit bien peut être mal pour quelqu'un d'autre et vice-versa. D'où ces lunettes que l'on a devant les yeux qui colorent toute notre vision de la vie. Et le problème, c'est que ces lunettes, c'est ce qui crée nos problèmes de communication. Quand il y a des problèmes de communication, c'est pas que l'autre ne sait pas communiquer ou que nous, on ne sait pas communiquer. C'est juste qu'on a des cadres de référence, des lunettes devant les yeux, des lunettes déformantes qui sont différentes. Et c'est ce qui fait cette confrontation de visions différentes de la vie. D'où les problèmes de communication et les émotions. Parce que les choses, elles sont ce qu'elles sont. Tout dépend le regard que l'on porte sur la chose. Alors, je vais prendre un exemple pour que vous compreniez. Vous êtes en face de moi, j'ai une feuille et je marque un 6. Je vais vous demander de lire ce que vous voyez, vous allez me dire un 9. Ben moi, je vais dire, ben non, de mon côté, moi, c'est un 6. Si on se met en plus à droite, par exemple, à ma droite, ben on aura un signe qui n'a pas de signification dans notre civilisation, mais dans une autre civilisation qui a peut-être une symbolique. Et de l'autre côté, la même chose. Donc, c'est simpliste, encore comme exemple, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est vraiment le regard que l'on porte sur la chose. Le signe que j'ai dessiné, il est ce qu'il est. C'est le regard que je pose sur la chose qui change tout. C'est l'angle de vue que nous avons des choses. Et là, nous avons la responsabilité de changer notre angle de vue. De voir que notre angle de vue est limitatif. Et que du coup, tout ce travail sur l'enfant intérieur va nous permettre de prendre conscience des lunettes que nous avons devant les yeux. Et du coup, on va pouvoir donner le droit à l'autre d'avoir d'autres lunettes, ce qui va changer notre communication. Parce que du coup, on va apprendre à se connaître dans toutes nos facettes, dont les facettes limitantes, parce qu'on se coupe, là encore, je vous ai parlé, que l'enfant, il se coupe de sa richesse intérieure. Mais nous, au niveau de l'adulte, c'est exactement la même chose. On croit se connaître, parce qu'on se définit au travers de notre personnalité. Je suis timide, je suis extraverti, je suis un guéluron, je suis incapable. Et ces définitions, elles nous collent à la peau, c'est comme un costume qu'on enfile, et on croit n'être que ça. Mais si on enlève ce costume, il y a une richesse beaucoup plus importante. Et ce travail que je propose à mes clients, c'est justement d'aller voir cette richesse intérieure, de se décoller de ce qu'on croit être, dans nos limites et d'aller voir nos ressources, nos richesses intérieures. Et ce travail amène à s'aimer de plus en plus. C'est un travail vraiment de valorisation. Ça développe l'estime de soi et du coup la confiance en soi. Et du coup la vie, elle paraît beaucoup plus belle quand on commence à s'aimer. Parce que du coup, ce travail d'amour qu'on va faire pour soi-même, quand on arrive à s'aimer soi-même, on peut après s'ouvrir à l'autre et aimer l'autre tel qu'il est.
C'est beau.
c'est un travail, petit pas par petit pas. Il faut vraiment être bienveillant avec soi. Parce que justement, la bienveillance, on ne connaît pas. On dit, on est bienveillant pour les autres, mais pour soi-même, on ne l'est pas. L'extérieur est le reflet de l'intérieur. Alors, on est bienveillant pour les autres jusqu'à un certain point. Parce que le jour où il ne nous rend pas le service qu'on lui demande, là, on se dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, et là, on se rend compte que le pur altruisme n'existe pas. On fait les choses, pas pour l'autre. On les fait pour soi, de façon tout à fait inconsciente, parce qu'on a des attentes de reconnaissance, de valorisation. Et du coup, Moi, ce que je propose, justement, c'est d'aller retrouver notre petit enfant intérieur, parce que c'est lui qui a besoin d'attention, c'est lui qui a besoin d'amour, qui a besoin de reconnaissance. Eh bien, il va le chercher à l'extérieur. Eh bien, ce travail que je propose, on va aller retrouver notre enfant intérieur pour le nourrir, apprendre à le nourrir nous-mêmes. Parce que l'enfant, ben l'enfant, il a des besoins de base, manger, boire, dormir, jouer, digérer, éliminer. Et bien, ces besoins de base, il faut apprendre. C'est la maman qui s'en occupait très souvent, jusqu'à pas très longtemps. Maintenant, c'est le papa, et c'est très bien. Hein. Mais ces besoins-là, de base, bien, il faut apprendre à les nourrir dans notre présent d'adulte et apprendre à devenir une bonne maman et un bon papa pour soi. C'est un travail, ce qu'on appelle de reparentage. C'est devenir le bon parent qu'on n'a pas forcément eu dans la réalité. Ce petit être, ce petit enfant intérieur, il doit devenir l'être le plus important au monde. Et on doit se dire et faire tout ce qu'on n'a pas eu dans notre enfance. Alors, par exemple, je vous parlais des besoins physiologiques de base. Eh bien, c'est déjà dans votre présent d'adulte, là, très souvent. Ah non, j'ai besoin. Alors, le truc basique, j'ai besoin d'aller faire pipi, mais je ne vais pas y aller parce que je dois finir absolument ce dossier. Et bien là, c'est une blessure supplémentaire qu'on se met à soi-même parce que le corps, il a besoin et on lui dit non, tu vas attendre. Ça, c'est issu de fameux épisode du pot où on devait faire jusqu'à pas très longtemps, enfin, parce que je suis plus toute jeune, hein, donc dans ma jeunesse, c'était ça, à heure fixe ou presque, l'enfant sur le pot, puis tant qu'il n'avait pas fait, il ne sortait pas. Et bien, on lui a appris à brimer ses besoins, à les contrôler, et bien on est encore là-dedans. Et justement, c'est d'apprendre à respecter vos besoins physiologiques. Vous avez faim, mangez. Vous allez me dire, je vais prendre 15 kilos. Non, c'est pas manger dès qu'on a faim, parce que ça peut être effectivement une faim parce qu'on s'ennuie. Je sais pas quoi faire, je vais aller grignoter. Non, c'est de s'interroger. Est-ce que c'est vraiment une faim ou est-ce que c'est ben, je m'ennuie. À ce moment-là, pourquoi je m'ennuie et trouver une occupation. Ou alors, ah ben, c'est l'heure de manger, je vais manger, c'est midi. Oui, mais j'ai pas faim. Interrogez votre corps. Votre corps, il sait. La tête, elle fout le bazar. La tête, elle fout le bazar. Ça, c'est un truc, c'est le mental. On le croit, on lui donne de l'importance à tout ce qu'il pense, alors que ce ne sont que des créations mentales qui n'ont pas de réalité matérielle. Alors que le corps, lui, il a des besoins et il sait ce qui est bon pour lui. Donc, se raccrocher à notre corps pour répondre vraiment aux besoins du corps et nourrir les besoins du coup bah, physiologiques. Et du coup, ça va donner confiance à notre enfant intérieur. Je dis, oh, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi. Et il aura moins besoin d'aller chercher cette reconnaissance que les autres répondent à ses besoins parce qu'on va répondre soi-même à ses besoins. Parce que j'ai un scoop quand même. C'est quand on attend que nos besoins soient comblés par les autres, c'est de l'égoïsme. C'est-à-dire quand on attend que les autres répondent à nos besoins, ça c'est de l'égoïsme. D'être centré sur ses vrais besoins à soi et apprendre à y répondre par soi-même, c'est de l'égocentrisme sain. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et ça, on ne nous a pas appris. Hein. Avec toute l'éducation judéo-chrétienne, il faut s'occuper des autres avant de soi-même, etc. Ça a fait du mal quand même. On ne sait pas s'occuper de soi. Et bien là, moi, ce que je propose, c'est d'apprendre à nouveau s'occuper de soi, comme une bonne maman ou un bon papa le ferait, pour notre petit enfant intérieur. Ça va lui amener vraiment une pommade cicatrisante, un baume, qui va guérir ses blessures. Et du coup, bah, déjà dans l'adulte, nous, en tant qu'adulte, ça nous fera du bien de dire, ben ouais, je suis gentil avec moi-même. C'est... Ah. Et en plus, on ne sera plus en dépendance de ce que les autres nous apportent. L'enfant, c'est pareil. Ben, il a besoin de valorisation, de reconnaissance. Et ben, cette reconnaissance, il faut se la porter à soi-même. Alors comment ? Ben, en faisant ce que j'appelle le dialogue intérieur, c'est à se parler à soi-même. Vous allez me dire, je vais devenir schizo. Non, c'est pas devenir schizo de se parler à soi-même, non. C'est vraiment se faire ce travail de valorisation, c'est-à-dire de se féliciter, de s'encourager, de dire bravo ma fille, bravo mon garçon, c'est bien ce que tu as fait. Moi, c'est ce que je conseille d'ailleurs à mes clients, hein, c'est de faire la rétrospective de la journée, tous les jours. Alors le soir avant de s'endormir, comme ça on passe une bonne nuit après. Hein. Et puis de trouver trois choses dont on peut être fier. Alors, pas des grosses choses, hein. Si vous gravissez un sommet, oui, très bien, vous vous valorisez, il n'y a pas de souci, hein. Mais ça peut être des choses très anecdotiques. Simplement, le temps, de prendre le temps de regarder un oiseau, d'écouter un oiseau chanter, par exemple, alors que vous êtes toujours à la course. C'est vous valoriser aussi pour les choses que vous faites ou que vous ne faites pas. C'est-à-dire, si vous avez un soi parfait très fort, qui vous dit toujours que il faut faire, il faut, c'est jamais assez propre la maison, par exemple, et que vous êtes fatigué ce jour-là, et que vous décidez, parce que vous êtes crevé, de ne pas faire le ménage, eh bien, félicitez-vous de ne pas faire comme d'habitude. Ah oui, c'est complètement à l'opposé de tout ce qu'on a l'habitude de faire. Mais vraiment, ce travail-là, va vous permettre, petit pas par petit pas, à découvrir d'autres facettes de vous. Et à vous. Ben, le fait que vous vous encouragiez, vous allez dire, ah oui, mais finalement, je suis bien, je suis une personne bien. Et vous allez développer l'estime que vous avez de vous-même. Donc, non seulement vous allez nourrir votre enfant intérieur, mais vous allez vous nourrir en tant qu'adulte. C'est pour ça, par rapport à la question que vous me posiez, quel est l'intérêt d'aller dans les blessures de l'enfance, dans l'enfance, c'est que c'est dans le présent que ce que vous faites, c'est dans le présent maintenant que vous faites. Mais en plus, ça va faire grandir votre petit enfant intérieur qui est bloqué à une période et il va grandir avec vous. C'est comme si vous le preniez par la main, comme une bonne maman ou un bon papa le ferait, et puis, viens mon grand, je vais te rassurer. Je vais, à ma façon, parce qu'on ne sait pas faire, on va apprendre à être une bonne maman et un bon papa pour soi. Petit pas par petit pas.
Et au niveau donc des émotions, comment travailler dessus?
Oui, alors ça, effectivement, c'est le travail me semble indispensable de travailler sur ces émotions, puisque c'est la base de notre problématique dans la communication. Souvent, hein, quand on communique, on a de fortes émotions qui sont, comme je vous disais, qui font élastique à une situation antérieure vécue dans l'enfance. Donc, faire un travail sur les émotions, c'est indispensable. C'est pas toujours facile parce que autant certaines personnes sont des livres ouverts, on voit tout de suite si ça va ou ça va pas. D'autres, au contraire, développent des trésors d'énergie ben, pour mettre un masque de tout va très bien, Madame la Marquise, avec un super sourire, ou alors simplement un masque de non-affectation, même pas mal, je ne ressens rien, tout va bien. Et puis elles sont vraiment coupées de leurs émotions. Donc moi, ce que je propose, c'est dans la journée de se poser 10, 15, 20 fois la question, comment je me sens? Si on répond bien, c'est un peu juste, ou mal, c'est un peu juste, c'est un peu trop généraliste, il faut apprendre à mettre un autre mot. Alors il y a des listes sur Internet, hein, d'adjectifs, donc vous pouvez vous aider avec ça. Mais surtout, si vous n'avez pas accès à vos émotions, à vos comment vous vous sentez, c'est d'aller voir les sensations physiques dans votre corps. Ah, je sens un petit chatouillis derrière l'oreille, par exemple, ou j'ai du mal à avaler. Déjà, c'est vous vous raccrochez au corps, donc vous n'êtes plus dans le mental. Et ça, c'est ce qu'il faut faire toutes les fois, de se raccrocher au corps, parce que lui, il vit des choses et c'est ce qui, il a un vrai dialogue, le corps. Et c'est comme ça que vous pourrez rentrer aussi en contact avec l'enfant intérieur par rapport à ce que vit les émotions inscrites dans le corps, puisqu'il y a des sensations physiques liées aux émotions, ça pourra vous permettre de travailler sur ces émotions et de prendre conscience de ce qui se passe déjà dans votre corps. Alors vous pouvez faire aussi un journal, faire la rétrospective de la journée pour voir s'il y a eu des sensations, des petites contrariétés ou des choses positives aussi, hein, parce que vous pouvez faire ce travail aussi avec le côté positif, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez passer à l'expression directe des émotions. Alors bien sûr, je ne vous dis pas d'aller casser la figure à tout le monde. Non, c'est pas ça. Hein. Non, quand même. On est dans un pays civilisé. Non, mais apprendre à évacuer ses émotions, bah, c'est par exemple crier dans un coussin ou aller courir dans la nature et crier dans la nature. Parce que la nature est thérapeutique par essence. Hein. Déjà, bah, faire du sport. Quand vous êtes obligé, quand vous faites du sport, bah, au bout d'un moment, vous ne pensez plus. Parce que le corps, il est tellement à bout que de souffle ou autre, que vous êtes obligé de vous concentrer sur le corps. Et c'est pour ça que ça fait tellement de bien quand on est dans la nature. Alors, même sans aller courir un marathon, hein, vous le faites à vos capacités, selon vos capacités, simplement marcher. Mais ça va oxygéner votre corps. Et ça, c'est très important d'oxygéner votre corps pour se déconnecter du mental. Parce que le mental. Ben, le problème, c'est pas. Je vous ai parlé du juge intérieur qui envoie des petites phrases assassines. C'est pas le problème, à la limite, qu'il envoie ces phrases. Mais on les prend pour des vérités vraies. On leur donne une importance énorme. Et du coup, c'est ça qui ne va pas. C'est le travail du mental, c'est de prendre les situations, de les analyser, Mais c'est comme un ordinateur, il va dans sa banque de données. Sa banque de données, c'est quoi? C'est le passé. Le mental, il fait ça. Il analyse ce qu'il reçoit comme info par rapport à ce qu'il connaît, le passé qui est mort. Et à partir de ce passé mort, il crée un futur hypothétique. Et le problème, c'est qu'on croit ce que notre mental nous dit, oh, ça va se passer comme ça dans le futur, et on y croit. Alors que cette projection dans le futur est faite à partir des passés morts. Et du coup, on est tout le temps là-dedans à donner de l'importance à nos pensées. D'où l'importance, je vous disais, de vous raccrocher à vos sensations physiques, de revenir dans le corps, parce que le corps, lui, eh ben, il est dans l'instant présent. Et on en entend beaucoup parler de tout ce qui est pleine conscience, instant présent, toutes ces techniques respiratoires, parce que c'est super important, parce que ça va vous permettre de revenir dans la réalité de l'instant présent et pas dans ce futur que nous créons qui est souvent très négatif parce qu'on se fie à ce qu'on connaît. Et du coup, là aussi, on se coupe de toute la richesse de la vie, parce que la vie est beaucoup plus riche que ça. Et du coup, toutes ces techniques respiratoires, ben simplement de marcher dans la nature, ça va vous oxygéner. Donc voilà, faire ce travail sur les émotions, dans votre présent, ça va vous permettre d'améliorer votre communication et puis d'apprendre à vous connaître et à vous aimer petit pas par petit pas. Parce que c'est vraiment important d'apprendre à s'aimer. On n'a pas appris à s'aimer. On a appris à aimer les autres. Mais avant d'aimer les autres, il faut apprendre à s'aimer soi-même et faire ce travail-là pour pouvoir améliorer votre communication. Parce que c'est vraiment super important de pouvoir communiquer avec les autres, de pouvoir échanger sans qu'il y ait des émotions, de pouvoir parler de soi, c'est ça en fait la communication, c'est souvent on est dans l'accusation de l'autre. Or il faut parler de soi, de ce qu'on ressent. C'est pour ça que c'est important de faire ce travail sur les émotions, de dire ben, voilà, quand tu me dis cela, ça me fait sentir comme ça. Quand on parle de son ressenti, l'autre ne se sent pas accusé. Et la communication du coup est beaucoup plus fluide. Parce qu'on dit bien que le tue la communication quand on est dans l'accusation de l'autre. Donc voilà, tout ce travail, c'est vraiment pour améliorer votre communication, améliorer le bien-être, vous sentir mieux et apprendre à vous aimer.
Pour en savoir plus, quelles sont les dates de vos prochaines conférences?
Alors oui, je fais donc une trilogie sur la communication, une trilogie de conférences dont la première est Retrouver son enfant intérieur pour mieux communiquer. Alors je l'ai déjà faite, je vais la refaire très certainement au Chapoule, au Café Associatif, j'ai pas de date encore. La deuxième, c'est Sortir du triangle bourreau-sauveur-victime. Alors là, je vais la faire le 1er mars à Valouise. Je l'ai fait aussi dans le cadre de l'UTL à Guillestre, à Briançon. La troisième conférence qui s'appelle Connaître l'énéagramme pour mieux communiquer, l'énéagramme étant un outil de connaissance de soi. Et ben là, je vais la présenter le samedi 16 mars à 18h30 à la Cure des Alberts, dans la Clarée. Et puis, je refais régulièrement ce cycle de conférences et je fais aussi des ateliers de développement personnel que je co-anime avec un collègue qui est coach spécialisé en neurosciences appliquées, Patrice Bonabès. On en a fait un le vendredi 8, là. On va le refaire. L'atelier s'appelle Comment attirer à moi ce que je souhaite. Alors, autant les conférences, ce sont juste des connaissances que j'apporte, alors que là, dans les ateliers, on fournit des outils et on travaille directement sur soi. Bien sûr, dans la bienveillance, la confidentialité, le non-jugement, c'est les valeurs de base, bien évidemment, de nos ateliers. Alors, si vous êtes intéressé par ce que je fais, vous pouvez aller sur mon site internet, ma page Facebook, excusez-moi, Sylvie Rochard, vous cherchez Sylvie Rochard Briançon et vous aurez mon site où je fais toute ma publicité. Vous pouvez aussi me contacter par mail à l'adresse Sylvie, Sylvie, point Rochard, Rochard, 65, @gmail.com. Voilà, et là je vous donnerai toutes les dates, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous donne toutes les dates de mes différentes interventions.
Également par téléphone, vous donnez aussi des
Les consultations.
consultations à domicile.
Voilà, alors mes consultations sont à domicile, effectivement, ou en face à face, ou par téléphone, et aussi par Skype, effectivement. Je fais des consultations par Skype quand c'est un petit peu éloigné ou avec les conditions météo un petit peu difficiles de venir. Voilà, je fais ces consultations. La première consultation est gratuite, et après, je fais le tarif de 40 euros de l'heure, à l'heure. Bon, alors, c'est souvent, ça dépasse hein, l'heure, je ne suis pas au minute près parce que je parle beaucoup, vous avez pu le voir. Donc voilà, c'est ce tarif-là, voilà. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions, vous n'hésitez pas effectivement à me communiquer. Je peux vous donner mon numéro de téléphone aussi. 06 02 25 14 61. Et je serai à votre écoute pour répondre à vos questions.
Merci beaucoup Sylvie, puis à bientôt pour une nouvelle émission sur une de vos conférences.
Mais avec plaisir, merci à tous, merci Laura de m'avoir enregistré. Alors, écoutez, merci.
On se quitte donc en musique avec Prendre un enfant par la main.
Vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main en regardant tout au bout du chemin.